Bienvenue dans ce troisième épisode du magazine thématique Apprentissart où, comme son nom l'indique, on vous parle d'apprentissage, d'alternance avec des écoles, des portraits. Donc restez bien avec nous après Montval-sur-Loire. Direction Le Mans où je vous emmène à la découverte de la dernière école de communication qui s'est ouverte. Il s'agit de CESACOM, l'école de communication en alternance située à deux pas de la gare du Mans. Vous allez faire la rencontre de plusieurs personnes travaillant au sein de l'école, de la direction, de l'admission en passant par le suivi et le ressenti des élèves sur l'alternance. Et on commence avec Sylvain Duclos, le directeur des écoles Aforem et CESACOM au Mans.
Sylvain, bonjour, comment ça va ?
Bonjour Aurélien, ça va super et toi ?
Ça va très très bien, merci de m'accueillir ici à CESACOM, donc l'école juste à côté de la gare, pratique pour les personnes qui viennent en dehors du Mans. Juste pour parler à la fois d'Aforem et CESACOM, faire un petit rappel de ce que c'est exactement, ce que vous proposez comme thématique, comme formation.
Nous, on a deux établissements du groupe Emineo Éducation. L'école Aforem qui est du côté de la zone nord, où là-bas on va proposer tout ce qui est formation autour du commerce et du management, toujours tourné vers l'alternance, c'est la thématique du jour. Des dispositifs post-bac jusqu'au bac plus 5, avec trois filières dans notre école Aforem, commerce management, marketing, digital communication et puis administration ressources humaines. Ça, c'est notre école Aforem depuis 2020. Et plus récemment, on a fait notre première rentrée avec CESACOM, qui est notre école de communication, donc okay. SP en com. Et donc là, pareil, tourné résolument vers l'alternance avec parcours post-bac jusqu'au bac plus 5 sur des parcours com 360.
Donc beaucoup de choses. Et ça, on en parlait un petit peu avant de commencer cette interview. L'alternance, moi, à mon époque, une quinzaine d'années, c'était un peu le vilain petit canard. On disait l'alternance, non, c'est quand tu réussis pas vraiment à l'école. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Comment on peut expliquer aujourd'hui, même en 15 ans, cette évolution où maintenant, la plupart des étudiants veulent faire de l'alternance ?
Bah écoute, t'as raison. Hein. Je pense que moi aussi, j'ai vécu ce que t'as vécu. Hein. Je suis le fruit de l'alternance, personnellement. Donc, il y a une vingtaine d'années, je suis parti vers l'alternance et je me souviens que mes profs, je dirais pas qu'ils me déconseillaient, mais ils trouvaient ça curieux au vu de mon parcours académique que je fasse le choix de l'alternance. Alors que le choix de l'alternance, c'est avant tout le choix de la professionnalisation. Donc, oui. C'était un choix qui était fait sciemment. Et effectivement, depuis maintenant 7-8 ans, l'alternance s'est beaucoup développée, fort aussi des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment post-Covid, qui a aussi été une réponse pour aider le développement des entreprises dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire pouvoir continuer à avoir des ambitions de développement et de recrutement, s'appuyer sur l'alternance. Et en fait, c'était un rapport gagnant-gagnant, permettre aux entreprises d'avoir des ressources pour se développer et puis permettre aux étudiants d'avoir une formation qualifiée. Et le but de tout ça, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais l'intention de tout ça, c'était de faire en sorte qu'on n'ait pas de jeunes qui arrivent sans qualification sur le marché du travail et pour développer l'employabilité et puis finalement aller vers une forme de plein emploi pour les étudiants.
En plus, la communication a grandement évolué depuis le Covid, hein, la digitalisation également. Comment vous sélectionnez, vous, les étudiants ? Il y a une admission nécessaire. Comment ça se passe quand un étudiant qui nous écoute là veut aller chez Aforem ou CESACOM l'année prochaine ?
Il y a un parcours, effectivement, de candidature qui va débuter déjà sur nos sites internet, aforem.fr ou CESACOM.fr. On va créer son dossier. Okay. Et puis après, on rentre en contact avec le ou la chargée d'admission qui s'occupe de la formation et on va rentrer dans un processus de présélection qui va être lié, certes, au dossier académique, mais pas que. On est sur un projet pro, donc c'est aussi un entretien d'admission. On va vraiment se concentrer sur le projet de l'étudiant qui va durer à peu près une heure. Là, on va évaluer la pertinence du projet de formation,
évidemment,
parce qu'on se lance dans quelque chose, et puis effectivement la motivation. En parallèle, pour la partie Aforem, on va dispenser des formations de BTS qui sont associées au rectorat. On va faire son vœu Parcoursup aussi qui va nous permettre de sélectionner. Mais les deux sont pas antinomiques. Il faut faire son vœu Parcoursup et venir candidater pour qu'on puisse lancer l'accompagnement, parce que le grand sujet de l'alternance, si on sait que c'est une modalité très favorable aux étudiants, le grand enjeu, c'est de trouver l'alternance. Et notre valeur ajoutée, elle est là aussi.
C'est ça. Moi, je vois beaucoup sur LinkedIn. Hein, il y a beaucoup de demandes d'alternance. Il suffit de taper des fois dans des invités Alternance Le Mans. J'en vois toutes les semaines arriver. Vous avez aussi des partenariats avec des entreprises locales ?
On a travaillé dès le départ, hein, puisqu'on est arrivé en 2020 sur le territoire, sur un ancrage territorial sur lequel aujourd'hui on peut faire bénéficier nos étudiants. Là, on a peu ou prou 500 entreprises avec lesquelles on travaille, dans lesquelles nos alternants ont des missions qui correspondent à leur projet. Ce boom de l'alternance où sont rendus très visibles des étudiants qui recherchent de l'alternance, il est réel, mais on voit moins la partie très positive, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui trouvent une alternance.
Oui.
Je prends toujours un chiffre, et puis là, c'est à l'échelle nationale. Il y a 5, 6, 7 ans, on avait à peu près entre 200 000 et 300 000 apprentis en France.
Okay.
Récemment, Effectivement, l'année dernière, on a frôlé le million d'apprentis. Donc, okay. Ça veut dire qu'il y a eu un vrai boom aussi du développement de l'apprentissage.
Fois 3,5 en fait.
Exactement. Donc, ça a été c'est énorme. Donc, tant mieux. Ouais. Mais effectivement, ça a aussi résonné chez les étudiants parce que ces projets d'alternance, ils ont compris l'intérêt en termes d'employabilité derrière. Et donc, forcément, on a aussi plus de candidats à entrer en alternance. Donc, par effet de masse, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur le carreau, mais les chiffres ne le disent pas tout à fait, puisque Le développement du nombre d'apprentis, il est quand même exponentiel. Et il a beaucoup bénéficié aussi aux études supérieures, donc ce qui permet d'avoir des étudiants mieux qualifiés et puis qui prennent plus de temps aussi. Ça, c'est important pour maturer leur projet et pour être sûr d'intégrer une filière qui leur plaît.
Puis il y a aussi un accompagnement que vous faites envers les alternants. Vous ne dites pas, allez, cherche pas une alternance, débrouille tout seul. Il y a vraiment aussi un aspect où vous les accompagnez jusqu'au bout. Comment ça se passe, cet accompagnement, quand un étudiant recherche une entreprise?
Nous, on appelle ça le dispositif CARE, coaching d'accompagnement à la recherche d'alternance, qui est une première phase. Et j'aime bien, sans rentrer trop dans le détail, résumer en deux grandes phases. La première phase, c'est qu'on va travailler au développement de l'autonomie de l'étudiant dans sa recherche. Donc l'accompagner à lui-même être en recherche active, puisque ce n'est pas inné de rechercher une alternance. Donc c'est travailler déjà sur les outils, CV, portfolio quand on est sur la partie com, et puis technique de recherche, quel type d'entreprise, comment, quand, etc. Cette partie-là permet à l'étudiant de lui-même être en recherche active, et puis on lui donne certains outils, des sources et des liens à aller explorer chez les entreprises. La deuxième phase, c'est qu'on fait la même chose. Nous, on a une équipe dédiée qui, au-delà de la partie accompagnement, est aussi en recherche active et en développement des partenariats avec les entreprises du territoire et qui va détecter les besoins recrutement sur l'alternance des entreprises et pouvoir intégrer directement les étudiants sélectionnés dans un processus de recrutement. Donc, c'est vraiment les deux phases. Et ce que je dis souvent, c'est qu'elles sont indissociables. Et en fait, c'est avant tout une collaboration entre un étudiant et une école qui est symbolisée par un chargé d'admission, puisque l'interlocuteur qui va s'occuper de la candidature et celui qui va se charger de l'accompagnement et de l'intégration dans l'école, c'est le même tout au long du parcours. Donc, ça permet d'avoir vraiment un lien humain et ça, c'est important.
Oui, il y a un vrai rapport, une évolution aussi de ce lien-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, mais qui hésitent encore un peu aujourd'hui hein?
Déjà, c'est de venir nous rencontrer. Ça, c'est très important pour échanger. Puis il y a aussi une forme d'individuation possible, c'est-à-dire que l'alternance, dans une école comme les nôtres, donc Aforem et Césacom, l'alternance est la finalité. Mais le parcours, il peut être différent. On a un étudiant qui peut commencer sur un statut dit initial. Par exemple, c'est le cas au Césacom, où notre bachelor cycle 3 ans, on débute son année par une année en initiale, donc on n'est pas en alternance, on fera un stage de fin d'études, mais qui permet aussi d'aller progressivement vers l'alternance. D'autres parcours qui permettent, dès le post-bac, d'être en alternance. Et à 18-19 ans, on n'est pas égaux en fonction de maturité, en fonction de la maturité du projet. Donc c'est déjà de venir nous voir pour savoir quel est le chemin qui nous emmène vers l'alternance en fonction de son projet. Et puis le conseil que je donnerais, c'est surtout d'être, actif, réactif, et puis surtout d'être positif. Je dis toujours aux étudiants qu'on s'en fiche d'avoir 99 non, parce qu'il suffit d'un oui pour que le projet fonctionne.
C'est clair, toujours voir le côté positif. Il y a combien d'élèves avec l'école Césacom et Aforem en gros?
Cumulé sur les deux écoles, on a à peu près 550 étudiants qui sont répartis sur les deux écoles.
Ok, donc c'est quand même un chiffre à taille humaine, c'est ça?
On reste à taille humaine, on reste à taille humaine, et puis c'est très important aussi parce que ça peut paraître même important, on parle de 500-600 étudiants répartis sur les deux sites, mais l'alternance fait que les calendriers de formation font que les étudiants se croisent sur site, et sur site, en fait, on a rarement plus d'une centaine d'étudiants dans chacune des écoles, donc ça permet d'avoir toujours cette dimension humaine et cet accompagnement individualisé.
Il y a aussi des événements à part qui arrivent, il y a eu After Commerce, c'est ça. Il y a l'événement AfterCom qui arrive bientôt. Si
exactement.
Je dis pas de bêtises,
merci.
C'est aussi un moyen de que les étudiants et je pense aussi peut-être les parents rencontrent des pros du secteur. C'est aussi intéressant d'avoir un vrai échange.
Ouais, complètement. En fait, ces événements qu'on décline, qu'on avait commencé l'année dernière avec l'AfterCom, l'After Commerce, probablement qu'on ira aussi vers l'After RH prochainement pour couvrir tous les métiers. Il y a deux choses. C'est hyper important pour nous parce que déjà c'est notre ADN, c'est-à-dire de relier toujours le monde académique et le monde de l'entreprise, parce qu'en fait les deux, l'un a besoin de l'autre et vice-versa.
Ouais.
Et surtout aussi, on organise souvent des portes ouvertes, forcément, et on se rend compte qu'en fait, les étudiants, ils viennent nous voir, ils choisissent un projet de formation avant de choisir un projet professionnel. L'after-com, c'est le contraire. Mmh. On fait des événements où c'est des pros qui viennent, qui témoignent, qui échangent avec les étudiants, et ça permet aux étudiants de comprendre les métiers et derrière, les associer à un projet de formation, et finalement, c'est plus logique.
Et puis, c'est plus réel, surtout.
C'est ça.
C'est beaucoup plus réel. Ici, on appelle quoi? Des intervenants, des professeurs dans ces écoles, les deux?
On parle de formateurs avec qu'est-ce que ça veut dire le terme formateur? Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Hein. C'est un professionnel. Un formateur, c'est quelqu'un qui va avoir évidemment une assise pédagogique et souvent une formation associée à ça, mais surtout une expérience significative dans les thématiques sur lesquelles ils vont intervenir. Minimum 5-10 ans d'expérience pro sur le module d'intervention, et où certains, et ça aussi c'est très intéressant pour les étudiants, sont en activité pro et se dégagent du temps aussi pour nourrir leurs besoins intellectuels, pour donner des cours en parallèle chez nous.
C'est ce que je vois, moi. Je vois que je fais beaucoup d'agences de communication et qui sont dans plusieurs, ouais, dans plusieurs écoles. Comment vous les recrutez? C'est via des sortes de sessions de job dating avec vous? Comment ça se passe? Si les gens veulent, par exemple, être recrutés l'année prochaine?
Et au départ, on recherchait, et maintenant, c'est un problème, je dirais, de riche. C'est qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de candidatures d'intervenants qui veulent venir chez nous, et on les reçoit avec grand plaisir, et souvent, on les reçoit physiquement, peu importe notre besoin, parce que c'est important d'enrichir l'écosystème, et puis c'est surtout important d'enrichir les formations de nos étudiants. Nous, des intervenants répartis sur les deux sites, on en a une grosse centaine. Ça peut faire peur, ce chiffre-là, mais en fait, on a parfois des modules tellement spécifiques qu'un intervenant, parfois, il va intervenir une, deux journées dans l'année académique, d'accord, comme un autre va faire peut-être 800 heures s'il a un module plus généraliste. Donc, on est toujours ouvert à ça. Et c'est simple, il faut nous envoyer un mail. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour les étudiants ou pour les formateurs, venez juste nous rencontrer.
C'est ce que je veux dire. En fait, juste se rencontrer, des fois, ça peut émerger une petite graine et se dire, tiens, à un moment donné, j'aurai besoin de telle ou telle personne.
Et nous, on cloisonne pas, et ça, j'insiste là-dessus, on est très impliqués, on cloisonne pas. On est une école, notre mission première, c'est de faire des formations de qualité, mais la mission associée, c'est le monde pro. Donc, on est toujours en interconnexion avec le monde pro. Et dans les formations qui doivent être concrètes et actualisées, notamment, je prends l'exemple du CESACOM, où le titre qu'on dispense de niveau 6, notre bachelor, est un diplôme qui appartient au CESACOM. Et donc, dans les préceptes liés à France Compétences et reconnaissance du diplôme, il y a l'actualisation régulière des modules. Donc, aujourd'hui, nos diplômes, et notamment celui que je viens de citer, il est directement lié au sujet qu'on voit en entreprise. Donc pour ça, pour rester en veille, on a besoin de nos étudiants, mais on a aussi besoin de rencontrer des pros qui nous font évoluer.
Évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain.
Avec grand plaisir. Merci pour l'intérêt.
Et maintenant, direction différents pôles. Tout d'abord, celui de l'admission et les relations entreprises avec Gwenaël Leclerc et le responsable pédagogique référent handicap, c'est Étienne Azérad. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. On les écoute.
Gwenaël, bonjour.
Bonjour Aurélien.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Ça va très très bien. Merci de m'accueillir avec ce beau temps. On est très bien, on sent très bien ici dans les locaux de CESACOM. Ton poste exactement, c'est quoi?
Alors, moi je suis responsable admission et relations entreprises, mais j'ai aussi plusieurs casquettes. Je vais commencer par mon poste à moi. Donc je m'occupe du service qui va accompagner les étudiants dans leur projet d'études, dans leur recherche de stage pour ceux qui sont en initiale, dans leur recherche d'alternance pour ceux qui recherchent une alternance, et j'accompagne également les entreprises dans leur projet de recrutement. Donc voilà, on est aussi un facilitateur et on sert de mise en relation entre les entreprises et les étudiants.
Donc des semaines bien chargées, j'imagine.
Bien chargées, effectivement, surtout que se rajoute à ça le suivi en entreprise, puisque dans mon service, une fois qu'ils sont placés en alternance, notre rôle, c'est de nous assurer également que ce qu'on a convenu avec l'entreprise au moment de la signature du contrat, ça soit respecté durant toute la durée du contrat de nos étudiants, donc de 1 à 2 ans pour certains.
Comment ça se passe? C'est que vous êtes souvent en relation avec les entreprises, vous venez sur place assez régulièrement. Comment ça se passe pour qu'une alternance se passe bien pour l'élève pendant ces années?
Alors déjà, c'est d'avoir du lien avec nos étudiants. Oui. Ça, c'est hyper important. Nous, on est toujours disponible pour eux, qu'ils soient à l'école, quand ils soient en entreprise. Voilà, on est vraiment toujours dispo. Dispo aussi pour les entreprises parce que parfois, il peut y avoir des problématiques aussi où ils ont besoin qu'on intervienne. Et effectivement, nous, on va se rendre une à deux fois en entreprise pendant la durée de l'alternance du jeune.
Ok, donc comme ça, pour que ça se passe très très bien. Ça peut déjà arriver que des jeunes se disent, viens, je ne me sens pas très bien, peut-être par rapport à les valeurs du jeune et de l'entreprise, ça arrive, hein?
Ouais, ça peut arriver. Après, l'idée, encore une fois, c'est de toujours favoriser la communication. C'est essayer de sortir d'une impasse aussi. Des fois, nous, on peut apporter en tout cas un regard extérieur qui permet des fois de dénouer aussi la situation. Et puis malheureusement, après, un contrat d'alternance reste aussi un contrat de travail. Oui. Donc si à un moment donné, ça se passe vraiment pas bien, on va pas forcer ni le jeune ni l'entreprise à continuer.
Ouais.
L'idée, c'est d'accompagner aussi la rupture du contrat, de faire en sorte que ça se passe bien, d'accompagner le jeune aussi dans une nouvelle recherche d'alternance et puis d'accompagner aussi l'entreprise dans une nouvelle recherche de jeunes.
Comment l'équipe accompagne les jeunes à trouver une alternance via, j'imagine aussi, certains cours? Comment ça se passe pour les aider? On sait qu'il y a beaucoup de demandes d'alternance, des fois pas assez de place. Comment comment vous aider ces jeunes, même les moins jeunes, à trouver une alternance.
L'autre casquette qu'on a également dans notre service, c'est qu'on a des modules de cours avec les étudiants,
okay.
Donc ce qu'on appelle des ateliers CARE, donc qui sont du coaching d'aide à la recherche d'alternance. Ces modules de cours, on en a autant pour les étudiants qui sont déjà dans l'école que des étudiants qui sont tout juste admis en fait, et on va avoir des créneaux pour les préparer justement à tout ce qui va être se démarquer sur son CV, sur sa lettre de motivation, sur son portfolio, comment on anime aussi son compte LinkedIn, parce qu'on le voit, ils sont tous super actifs, mais comment ils vont se démarquer. On va les accompagner également sur la partie préparation aux entretiens de motivation.
Oui.
Donc, on va faire des simulations avec eux, poser les pires questions qui peuvent exister, mais pour qu'ils soient plus que prêts, en tout cas, quand ils vont en entretien, et du coup, sortir aussi du lot par rapport à toutes les candidatures qu'il peut y avoir.
Un vrai entraînement, quoi.
C'est ça.
Un vrai entraînement intensif pour avoir son entreprise.
Complètement. C'est vraiment ça.
Comment aujourd'hui les personnes qui nous écoutent peuvent faire la différence lors d'un entretien pour avoir son alternance ?
Déjà, se renseigner sur l'entreprise. Mmh. C'est super important. Ne jamais arriver en entretien en ne sachant pas qui on va rencontrer, pour quel poste on postule, quelles sont un petit peu les grandes lignes. Alors pour le coup, je parle vraiment pour CESACOM, mais les grandes lignes de la communication aussi. Et apporter des idées aussi. Ah tiens, j'ai vu que vous faites ça. Plutôt, je ferai ça, je vous proposerai ça, etc. C'est vraiment ça qui va se démarquer, c'est vraiment le côté se renseigner sur l'entreprise et puis encore une fois la préparation. C'est vraiment, 80% du boulot est fait quand on est bien préparé et qu'on arrive en entretien.
Comme partout, hein. Quand oui. On doit présenter quelque chose, enfin un projet, etc., la préparation c'est primordial. Aussi le portfolio, j'imagine qu'avoir un portfolio surtout en communication, quand on va démarcher une entreprise, c'est hyper important de savoir de quoi aussi on est capable.
C'est hyper important, effectivement. Alors, le portfolio, je sais qu'il y a des gens qui, parfois, se disent « j'ai pas grand-chose à mettre, c'est pas grave. Mmh. » Vaut mieux un portfolio qui fait 5 pages, mais avec des projets très bien construits, très bien expliqués, que quelque chose qui fait 20 pages, mmh. où il y en a de partout, où l'entreprise, elle sait pas forcément se repérer, quel est le projet phare, etc. Donc, vraiment, même s'il y en a pas, vaut mieux privilégier la qualité que la quantité dans le portfolio.
Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas, Gwenaëlle.
Merci à toi, Aurélien.
Étienne, bonjour.
Bonjour.
Donc, si je ne dis pas de bêtises, responsable pédagogique et référent handicap.
Tout à fait.
C'est bien ça. Exactement. En quoi ça consiste exactement ? Quelles sont les journées
Alors, il n'y a pas de journée type. C'est ça,
okay.
Que c'est un des plaisirs de mon métier, justement, c'est de ne pas avoir trop de routine dans ce que je fais. Il y a forcément un aspect répétitif parce que on est sur des années scolaires. Donc, on va dire que l'année commence tous les ans en septembre et termine tous les ans en juillet et qu'on repart sur un nouveau cycle l'année suivante. Mais les journées sont différentes parce que comme on est en alternance, et on n'a pas les mêmes publics au quotidien, oui. qui sont présents du lundi au vendredi, comme ça peut être le cas, au lycée par exemple. Ce qu'on retrouve ici, c'est des personnes qui sont en formation en début de semaine, parfois en fin de semaine, et puis parfois ils sont chez nous pendant une semaine et puis on ne les revoit pas pendant 3 semaines. Donc il y a vraiment un renouvellement aussi du contact humain qu'on peut avoir, et donc les journées pour ça changent un petit peu. La première chose qu'on fait, bien entendu, c'est qu'on accueille un public sur place à l'école et que le pôle pédagogique que je représente en partie en étant responsable pédagogique est justement de s'assurer que la continuité pédagogique se fait et que les étudiants, ils rencontrent tous les jours un formateur,
oui.
Qu'ils ont de quoi être formés et qu'on s'assure qu'à la fin de l'année, ils sont préparés pour leur certification et leur diplôme.
Référent handicap, c'est tout type d'handicap. Vous avez des personnes ici en situation de handicap pour
tout
l'instant
à fait. Ouais. Exactement. Alors, tout type d'handicap, ça peut être du handicap visible, non visible, ça peut être un handicap qui dure ou ça peut être un petit handicap temporaire. Typiquement, si demain quelqu'un a un petit accident et qu'il se casse la cheville, c'est aussi un handicap qu'il faut prendre en compte. Et donc, on a la chance sur le campus d'avoir des salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc on le prend en compte. Et puis, il y a aussi le handicap invisible, dont on parle un petit peu moins, mais qui est aussi nécessaire, surtout quand on fait de la formation, de prendre en compte justement les spécificités de chacun et s'assurer que notre formation s'adresse aussi à eux.
L'alternance, ça te parle depuis longtemps. Quel est ton rapport avec l'alternance pour travailler aujourd'hui pour CESACOM ?
C'est une bonne question parce qu'il y a un peu plus d'un an, parce que ça fait maintenant un an que je suis au CESACOM, il y a un peu plus d'un an, je ne connaissais pas grand-chose de l'alternance, pour être tout à fait honnête. j'ai eu des amis et des connaissances, des collègues qui étaient passés par l'alternance et qui m'avaient vanté les multiples intérêts de cette forme de formation, mais je ne l'avais jamais expérimenté personnellement et je ne m'étais jamais moi-même positionné sur ce type de formule. Et en arrivant donc au CESACOM, j'ai été formé sur qu'est-ce que c'est que faire de l'alternance. J'y vois beaucoup d'avantages. Il n'y a aucune formule qui est parfaite, bien entendu, mais elle a pas mal d'avantages. Le premier, bien entendu, c'est le fait que la formation soit prise en charge par l'employeur. Et d'un point de vue pédagogique, surtout, moi, ce que j'y trouve comme intérêt, c'est le fait de pouvoir travailler main dans la main avec les entreprises partenaires et d'élaborer un plan de formation, une maquette de formation qui est pas uniquement sur une théorie, mais qui est lié à la pratique et que nos entreprises partenaires viennent nous dire indirectement, bien entendu, voilà les problématiques que je rencontre au quotidien, voilà ce sur quoi nos étudiants devraient être amenés à travailler. Ça nous fait sortir des tendances qui ne viennent pas uniquement de l'esprit d'ingénieur pédagogique, de dire on aimerait bien parler de ça, mais voilà les réalités des métiers de la communication sur lesquelles on doit être prêt pour demain.
Et j'imagine aussi que quand telle entreprise a telle problématique, vous pouvez dire tel étudiant pourrait correspondre aussi à telle entreprise, ça se passe comme ça?
Ça, c'est plutôt le travail en effet des chargés d'admission et des relations d'entreprise qui au moment du positionnement de nos apprenants en alternance vont justement essayer de trouver le profil idéal par rapport aux problématiques de l'entreprise. Nous, notre travail du côté pédagogique, il est de faire de manière à ce que, idéalement, quand un étudiant en master ira dans cette entreprise, eh ben, la formation en master répond aux problématiques de cette entreprise. Donc, c'est un travail main dans la main avec les chargés d'admission et relations entreprises pour qu'on dise bah, pourquoi placer un étudiant en bachelor ? Parce que les horaires où le cycle d'alternance fonctionne, oui, mais aussi parce qu'ils ont été formés ou ils vont être formés pour répondre à ces problématiques. On le voit vraiment par rapport au niveau de préparation des étudiants en master, en bachelor, par rapport à leur niveau d'études.
Et alors, c'est tout récent, l'alternance, après un an, comment c'est aujourd'hui, toi, ton ressenti, un an après ces ACOM sur l'alternance?
Je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'avais eu l'habitude de faire plutôt de la formation continue.
Même chose, je disais tout à l'heure ça à Sylvain, c'est que même moi, il y a 15 ans à mon époque, c'est que l'alternance était mal vue. Ouais. C'était que la formation continue qui était vraiment le sommet de ce qu'il fallait faire.
Ouais. C'est intéressant parce que c'est un public qui est un peu différent justement de la formation continue standard, on va dire. Mais ce qui est important pour nous comme pour eux, c'est d'avoir cette posture professionnelle de se dire qu'ils se sont déjà des professionnels en formation et ce ne sont plus vraiment des étudiants comme on peut l'entendre au niveau universitaire. Ils sont toujours en apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on estime qu'ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils sont en master, parce qu'ils sont en bachelor, parce qu'ils ont parfois 1, 2, voire 3 années d'expérience en alternance. Ils ont encore des choses à apprendre et c'est pour ça qu'ils sont là. Mais on doit déjà les considérer comme des professionnels et c'est ce qu'on fait depuis le jour de la rentrée. C'est-à-dire que ce n'est pas des étudiants, ce sont des apprenants, ce sont des apprentis, ce sont des professionnels qu'on va aider à monter en compétences. On va dire que l'alternance a cet avantage finalement d'accélérer l'apprentissage par rapport à quelqu'un qui serait uniquement en entreprise en CDI et qui dirait « je vais me former uniquement sur l'expérience ». Eh bien, il y a cette expérience au niveau de l'alternance, mais il y a aussi la montée en compétences qui est accélérée par le contact avec les différents intervenants, les différents experts qu'on va mettre face à eux au fur et à mesure de l'année scolaire et de se dire « en apprentissage, en entreprise, on a un maître d'apprentissage. Quand on vient à l'école, on a 20, 30 intervenants qui vont nous permettre chacun sur leur module, de monter en compétences spécifiquement. »
Oui, c'est clair, et c'est pas juste des trous à remplir dans une entreprise, contrairement des fois à des stages qu'on avait en formation continue, où certains élèves, je me rappelle moi à mon époque, c'était juste, il manque juste quelqu'un, vas-y, tu le remplis tout, et voilà quoi.
Je pense que nos étudiants le ressentent, je suis pas à leur place en entreprise, mais les retours que les coachs peuvent nous faire par rapport justement le bilan qui se fait en milieu d'année, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont des vraies missions. Ils sont pas là uniquement, comme tu dis, pour remplir les trous, ils sont là parce que l'entreprise compte sur eux, ils ont une responsabilité, ils sont inscrits dans un projet professionnel, il est le leur d'un point de vue d'apprentissage, il est aussi celui de l'entreprise qui se dit, moi si j'ai fait un recrutement, même si c'est sur une alternance qui peut durer 1 an ou 2 ans, c'est un investissement et l'entreprise a envie de voir un retour sur cet investissement. Ils s'investissent en payant bien entendu la formation, mais ils s'investissent aussi en formant et en accompagnant sur l'alternance. Donc je pense que les étudiants se disent, je suis déjà un pied et demi dans le monde professionnel. Et la diplomation leur permettra de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'être officiellement un communicant professionnel.
Et que serait une école sans élèves? En réalité, pas grand-chose. J'ai eu le plaisir de rencontrer Camille et Thibault, deux personnes au profil aux histoires différentes. et ils nous racontent leur point de vue sur l'alternance. Aujourd'hui, on les écoute.
Camille Thibault, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui.
Oui, ça va très bien, et toi ?
Ça va très très bien. Je fais le tour un peu là, on a fait le tour un peu de toutes les personnes, une partie des personnes chez Césacom. Déjà, alors en streaming, j'ai deux profils différents. Vous deux, l'alternance, alors on va commencer par toi Thibault. L'alternance, c'est venu comment ? Dès post-bac, c'est venu comme ça ? Tu as voulu tout de suite avoir une expérience pro ? Comment ça s'est passé dans ta tête pour aller vers l'alternance ?
Moi, après le bac, j'ai intégré une licence. Donc en fait, je suis déjà diplômé d'un bac plus 3. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et après, l'année dernière, j'ai intégré un bachelor en alternance. Mmh. Et parce que je voulais pas faire de l'initiale. Et après, j'ai intégré le master aussi en alternance.
Donc toujours une volonté, voilà, c'est une expérience pro, c'est ça que tu as voulu faire ?
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
Je vois beaucoup de personnes. Comment t'as fait, toi, pour avoir ton alternance ? C'est compliqué aujourd'hui d'avoir une entreprise. Même si les chiffres sont de mieux en mieux, il y a quand même une difficulté. Toi, comment tu as réussi pour avoir cette alternance-là ?
Cette année, ça a été... En fait, l'école nous accompagne dans la recherche d'alternance. Ouais. Et donc, on m'avait envoyé l'offre de l'entreprise en question. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de retour, donc je m'y suis déplacé. Et le lendemain, j'avais un entretien et j'ai été pris.
Ça a été hyper rapide.
Un peu au culot, c'est ça ?
Ouais, c'est conseiller, ça. Ouais. Vraiment, j'ai été en boutique directement. J'ai dit, est-ce que je peux voir le chef d'entreprise ? Et puis, il a bien aimé la démarche d'aller vers.
Tout simplement. Là, c'est différent. Une reconversion professionnelle.
Parfait.
Avant, tu étais dans quel domaine ?
J'étais dans les ressources humaines. Du coup, j'ai déjà eu un master en RH. J'ai travaillé 5 ans et je me suis rendu compte qu'au final, c'était plus fait pour moi et que je préférais largement la communication et le marketing. Donc, je me suis réorientée depuis septembre, du coup, l'année dernière.
Quel était le déclic d'aller vers la communication ? La RH, tu t'ennuyais un peu ? C'était plus dans tes valeurs ? Tu voulais changer de voie ? Comment ça s'est passé, ce choix, ce déclic ?
Oui, c'est ça. Bah, en fait, la communication, j'aime bien depuis pas mal de temps. Et du coup, je me suis dit que le travail, c'était un peu un train-train quotidien et que je voulais faire quelque chose qui me correspondait plus aussi à ma personnalité. Voilà. Et du coup, la com, ça matche mieux avec. Qui je suis.
Quand tu as une reconversion, qu'est-ce qu'on dit tes proches quand tu as dit bah tiens, la RH, j'ai plus trop envie. Aujourd'hui, je vais aller vers la communication, donc la créativité, le fait d'avoir une page blanche et vraiment de faire preuve d'imagination. Comment ça s'est passé ça, avec les proches ?
Au début, il y avait un petit peu d'appréhension, notamment mes parents, ils avaient un petit peu peur. Ils se sont dit, là, t'es sûr que tu veux recommencer à zéro ? T'as déjà fait 5 ans d'études, etc. Mais du coup, ils veulent que je sois heureuse, donc du coup ils m'ont dit bah vas-y fonce, si c'est ce que tu veux faire et que tu t'épanouis là-dedans, vas-y.
Et aujourd'hui, depuis que t'es arrivée à Césacom, comment ça se passe l'alternance ?
Ça se passe très bien. Ouais. Alors j'avais des appréhensions au début du fait que je suis plus âgée, que du coup faut me payer plus cher aussi pour les entreprises.
Évidemment.
C'est peut-être plus compliqué, mais du coup ça se passe très très bien parce que je suis très autonome aussi, du fait que j'ai eu déjà une expérience professionnelle, je connais les codes de l'entreprise et du coup on s'adapte, je pense, plus vite qu'une personne qui n'a pas beaucoup travaillé.
Et tout ce qui est équipe pédagogique, comment ça se passe quand vous êtes alternante, vous accompagne de A à Z dans cette recherche, dans ce suivi durant tout le long, comment ça se passe ?
C'est l'équipe de chargée d'admission et relations entreprises, ce qu'on appelle l'EQUER, qui nous accompagne. Et en fait, ils nous accompagnent, on a des bilans sur toute l'année avec notre tuteur et l'EQUER, ou juste l'EQUER, ou juste le tuteur. Donc voilà, c'est vraiment sur toute la durée. Et puis après, il y a l'accompagnement avant de rentrer, évidemment, pour la recherche d'alternance, justement, dans les signatures de contrat.
Dans beaucoup de choses, en fait. Ça doit être rassurant. J'imagine.
Oui. Ouais. Et c'est un peu. C'est la personne qui fait tampon si jamais ça se passe pas très bien en entreprise. Donc entre nous et l'entreprise, et comme ça, le CAIR peut justement téléphoner au chef d'entreprise pour dire bah voilà, en fait, faudrait peut-être recentrer l'émission ou discuter plus avec l'étudiant. Donc, voilà.
Et pour les gens qui nous écoutent et qui hésitent entre l'alternance et la formation continue, qu'est-ce que vous donneriez peut-être comme conseil, comme motivation pour se dire tiens, l'alternance, c'est bien.
L'alternance, je trouve que c'est très bien parce qu'on peut apprendre des missions avec du concret. En fait, parce que tout ce qui est formation initiale, ça reste quand même vachement théorique.
Oui.
Là, on peut appliquer ce qu'on apprend en cours sur le terrain directement. Et du coup, on apprend encore plus. Je trouve.
Alors, tu parlais d'avoir ton alternance avec le culot en allant voir directement le chef d'entreprise. Comment toi, ça s'est passé pour toi, pour trouver ton entreprise ?
Alors moi, du coup, c'est Gwenaël qui a directement envoyé mon CV à mon patron actuel.
D'accord.
Et du coup, il était super intéressé parce qu'il cherchait justement une alternante ou un alternant qui était plus âgé.
D'accord, comme voilà. Quoi le hasard a bien fait les choses.
Exactement, lui, il voulait une personne qui avait déjà un bagage avant. Et du coup, il a vu mon profil, il a dit, bah parfait, c'est ce que je veux. Donc voilà, donc on a eu un entretien et ça s'est très bien passé.
Bah voilà, et c'est quelle entreprise ?
GMS Diffusion.
D'accord, et toi c'est ?
Café Boc.
Ah, je connais très bien. On salue Henri. Donc voilà, ça prouve aussi voilà, que le hasard peut bien faire les choses. Et quand on a plus de 26 ans, c'est bon. Coûte toujours plus cher, donc c'est encore moins évident de... Donc t'as dû être rassurée, surtout quand tu fais une reconversion.
Oui, totalement. Ouais. Au début, j'avais un peu d'appréhension quand même, comme je le disais tout à l'heure. Et le fait que ça l'intéresse, que j'ai déjà un bagage précédemment, et ça rassure vachement quand même.
J'imagine. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
L'école Césacom se trouve au 130 rue du Bourbelais au Mans. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les formations, c'est par téléphone au 02 52 56 88 64. Le mois prochain, vous retrouverez Valérie pour un tout nouvel épisode d'Apprentissart.